voir. Louise Touret.
Drôle de semaine pour l'éducation. Qui a retenu que la loi pour une école de la confiance a été présentée par Jean-Michel Blanquer ce mercredi en Conseil des ministres ? Cette actualité a été éclipsée par la mobilisation lycéenne et les faits de violence aussi qui ont émaillé ces derniers jours. Des images qui resteront après de graves exactions commises par des adolescents en marge du mouvement lycéen à Mantes-la-Jolie. Une vidéo hallucinante de leur arrestation, près de 150 élèves agenouillés, entravés, filmés. Cette vidéo tournant ensuite sur tous les réseaux sociaux et provoquant une très vive émotion. Cette scène et cette position, main derrière la tête, a été reproduite par des manifestants vendredi et samedi, et pas seulement par des manifestants lycéens. En effet, un mouvement d'élèves qui porte ses propres revendications est parti dans la roue de celui des Gilets jaunes. C'est une actualité tout à fait particulière. Reste à savoir si les revendications des lycéens qui manifestent sont audibles. Il s'agit de remettre en cause à la fois la réforme du lycée qui a commencé pour les élèves de seconde à la rentrée. Et puis Parcoursup, vous savez, c'est le processus d'admission post-bac, enfin ça s'appelait comme ça avant, APB. Il a été mis en place l'année dernière et d'ailleurs l'année dernière les lycéens ne s'étaient pas beaucoup mobilisés. Alors aujourd'hui, on peut dire que la colère se cristallise autour de la manière dont les élèves pourront ou ne pourront plus faire leur choix d'orientation. On va le préciser avec des syndicalistes lycéens. Mais justement, une toute nouvelle étude du Conseil national de l'évaluation du système scolaire, le CNESCO, porte sur l'orientation scolaire. Elle va paraître mardi. Nous allons vous en offrir la primeur aujourd'hui dans Être et Savoir. Elle est très éclairante, cette étude, sur ce qui fait obstacle au choix et la philosophie de l'orientation en France, qui est tout à fait particulière si on compare notre pays aux pays voisins qui ont un autre regard sur les élèves et leurs aspirations. L'orientation en question, c'est le sujet d'Être et Savoir cette semaine. Et bien sûr, comme dans chaque numéro, d'Être et Savoir, la leçon de choses, la belle leçon de choses de Sophie Bobert.
J'ai pu oser tout en arrivant en France. Parce que là, je me suis dit, ils ne parlent pas le langage, ils ne peuvent pas me reprendre. Ils ne savent pas ce que je fais parce que c'est secret, c'est en France. Et c'était comme un... Là, j'étais de tous les audaces, parce que j'étais en plus avec quelqu'un d'audacieux. Mais je pensais qu'ils n'allaient pas savoir à la maison. Donc c'était divin pour moi d'arriver en France.
Divin d'arriver en France. Vous avez reconnu la voix de Jane Birkin. Elle nous racontera ses jeunes années en pensionnat en Angleterre. Et ce sera évidemment en fin d'émission. Et je vais tout de suite vous présenter, chers auditeurs, nos invités. Nous parlons d'orientation et puis de la mobilisation lycéenne. On va voir que c'est lié. Mais je commence avec ce qu'on appelait avant une conseillère d'orientation. Maintenant, ce sont les PSI-EN. Sylvia Missy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'APSI-EN. C'est donc l'Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale, conseil en orientation. Et c'est vous qui aidez au sein des établissements les élèves à s'orienter avec les professeurs principaux.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est aussi nous qui travaillons avec les professeurs pour essayer de voir comment ils peuvent accompagner au mieux aussi les élèves et leurs familles, parce qu'il ne faut pas oublier les familles, les chefs d'établissement, à mettre en œuvre quelque chose qui soit respectueux des jeunes, de leurs aspirations et de leur envie de réussir. Et aussi qui travaillons en amont de ces questions d'orientation à l'adaptation scolaire et à la réussite scolaire, puisque quelque part c'est le socle premier nécessaire au fait de se sentir bien à l'école et de réussir.
Mais cette question de l'amont, elle est au cœur du dossier de la conférence de consensus, ça s'appelle comme ça. Nathalie Mons, bonjour.
Oui, bonjour.
Une conférence de consensus qui a un titre très particulier. Alors je pense qu'il y a une partie de la réponse dans la question. L'école française est aide-t-elle les élèves à construire leur orientation? C'est une étude donc que vous avez réalisée avec un autre sociologue, hein, Yves Duterte, qui est le conseiller scientifique de cette étude. Vous-même, vous êtes sociologue. Et on va voir comment ce travail nous éclaire sur à la fois ce qui est fait en France et chez les pays, dans les pays comparables. Et comme cette semaine, l'actualité, je l'ai dit, était très intense du côté des manifestations lycéennes, on a voulu inviter deux représentants de syndicats lycéens. Nathan Le Potier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'UNLSD, l'Union Nationale Lycéenne Syndicale et Démocratique.
C'est ça.
Notre UNL aussi qui est important. Et avec nous également Alexandre Séguenot.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national du SGL, le syndicat général des lycéens. Et vous, votre syndicat, il est représenté dans les instances nationales, hein, de représentation démocratique lycéenne. Vous êtes consulté au CSE, au Conseil supérieur de l'éducation, c'est bien cela?
Oui, c'est exact.
Bon, on va voir hein, à quoi ont mené ces consultations. Alors, c'est avec vous qu'on va commencer, chers lycéens. Est-ce que nous avons raison dans Être et Savoir de faire le lien entre la question de l'orientation et vos revendications en ce moment qui ont mobilisé près de 280 lycées, je crois, cette semaine? Alors, c'est pas complètement majoritaire, mais c'est plus que l'année dernière.
Oui, bah, bien sûr, hein, vous avez totalement raison de vouloir lier le sujet de l'orientation à la question des mobilisations actuelles. Et d'ailleurs, on a pu le rappeler au ministre de l'Éducation hein, sur la question de la loi orientation et réussite des étudiants ou encore sur la réforme du bac 2021. C'est tout autant de questions que se posent les lycéennes et les lycéens et auxquelles aujourd'hui on n'a pas vraiment de réponse, si ce n'est des réponses qui vont dans le sens de la suppression d'emplois, qui vont dans le sens de supprimer les postes de conseillers d'orientation et d'information, etc. Donc c'est vrai que bah, nous, à l'heure actuelle, on se pose vraiment des questions et on attend vraiment d'avoir des réponses claires, franches et nettes de la part du ministère de l'Éducation. Et quoi qu'il arrive, nous, on continuera de se mobiliser.
Alors le ministère, pas le ministre, hein, mais le ministère a reçu des organisations syndicales cette semaine. Ces questions, elles sont de quel ordre? Aurons-nous tous accès aux mêmes possibilités? Aurons-nous suffisamment d'informations? La réforme est-elle injuste? Est-ce que vous pouvez préciser, Nathan Le Potier?
Grosso modo, ce qui est dit par le ministère de l'Éducation, c'est sur la question du bac 2021, quand on leur dit oui, que toutes les spécialités ne pourront pas être disponibles dans l'ensemble des établissements, ils nous disent que bah, clairement c'est le cas et que bah, par exemple dans un lycée où il y a 7 spécialités alors que normalement il y a 9 spécialités au total, ça veut dire qu'en fait le ministère de l'Éducation et le ministre en personne, ils font le choix d'avoir des bacs qui sont différents d'un lycée à un autre.
Et c'est une limite dans l'égalité sur le territoire, enfin surtout dans les zones où on peut moins se déplacer, c'est ce qu'il apparaît. Une question pour vous, Alexandre Séguenot. Le ministre dit qu'il a consulté les organisations lycéennes et les lycéens pour construire sa réforme du lycée. Vous qui êtes une organisation qui est représentée, est-ce que vous vous sentez suffisamment consulté? Et quand vous avez voté, comment avez-vous voté?
C'est vrai qu'on a été consulté l'année dernière, aussi bien les syndicats lycéens et dans les lycéens dans les instances lycéennes comme le CSE ou le CNVL.
Donc Conseil National de la Vie Lycéenne.
Voilà. Mais le problème, c'est que on n'est pas assez écouté. Par exemple, au CSE, quand le vote a été fait au sujet de ces réformes, nous, le syndicat général des lycéens, nous avons voté contre. D'ailleurs, si on reprend les votes, quasiment l'unanimité des votants ont voté contre. Mais on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu d'écoute et la réforme est quand même lancée et elle est quand même mise en place.
Le CSE, donc Conseil supérieur de l'éducation, qui est un organisme consultatif. Donc,
si je peux juste ajouter une chose sur la question du Conseil national de la vie lycéenne, quand nous aussi, pour le coup, on est représentés dans les instances nationales. Donc, quand nous, on a essayé de prendre la parole, en fait, toutes les voix d'opposition vis-à-vis de la réforme, elles ont été coupées. Et nous, nos représentants et nos représentantes n'ont pas pu prendre la parole pour pouvoir dénoncer la réforme. Et c'est ce que je souhaite dénoncer ce soir. C'est que quand on dit qu'on écoute les lycéennes et lycéens, et quand on écoute les organisations lycéennes, et qu'en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas, parce qu'on n'est pas en capacité de prendre la parole dans ces instances-là, d'autant plus que ces instances, elles ne sont pas décisionnaires, mais elles sont uniquement consultatives, et bien en fait, on se pose la question de la volonté du ministre qui est d'écouter les lycéennes et les lycéens. On peut trancher cette question ce soir avec cette conclusion, tout simplement.
Bon, voilà, on a bien compris que vous ne vous sentez pas écouté ni même consulté, puisque vous dites qu'on ne vous laisse pas la parole. Alors, on va en venir à cette question d'orientation. Les réformes, elles sont compliquées, mais l'orientation, finalement, ça a toujours été un sujet assez complexe, un paysage assez complexe, Nathalie Mons. C'est ce qu'on voit dans votre étude, c'est ce qui ressort des enquêtes d'opinion sur les lycéens qui s'expriment sur leur parcours. On voit que, déjà, l'information ne circule pas très bien et ne circule pas partout.
Oui, le premier constat sur une étude qui a porté sur les jeunes de 18-25 ans qu'on a pu mener avec le Crédoc, c'est un bilan, je dirais, plutôt mitigé des jeunes. On leur demandait s'ils étaient satisfaits de l'accompagnement qu'ils avaient eu en matière d'orientation. Et ils nous répondent à 50% oui, ou donc à 50% non. L'élément certainement aussi très important de cette étude, c'est le stress. On a quand même 2/3 des jeunes qui nous disent que c'est stressant. On a 70% qui ont renoncé à certaines formes d'orientation, ce qui peut paraître normal. Ce qui est quand même beaucoup plus alarmant tout de même, c'est que on a 1 jeune sur 3 qui renonce pour des raisons économiques. Et ce chiffre grimpe à 40%. On a 40% des jeunes filles qui nous disent qu'elles renoncent à certaines orientations pour des raisons économiques. Donc le tableau n'est pas tout à fait rose. Et vous faisiez le lien certainement aussi avec des formes de mobilisation. On est en France dans un cadre très particulier. C'est-à-dire que l'orientation a une place très spécifique par rapport à ce qui se passe à l'étranger, parce que la place de l'école et la place du diplôme demeurent extrêmement prégnantes. On regarde, si vous ouvrez le monde, vous regardez les nécrologies et vous voyez encore des gens qui, alors qu'ils ont 80 ans, qui malheureusement sont passés de vie à trépas, on souligne quel a été leur diplôme. Ils sont X, ils sont HEC. Surtout si on sort d'une grande école. Parce qu'en fait, le diplôme aujourd'hui en France est très important. Si je compare avec un pays tout à fait différent, prenons par exemple le cas de l'Allemagne, qui est pourtant un pays extrêmement sélectif, à des âges assez élevés, donc avec des orientations qu'on peut même dire précoces. Cette orientation est un sujet un petit peu moins sensible. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une telle hiérarchie déjà des formations, entre les formations scolaires, académiques, classiques et les formations professionnelles. Il y a une sorte de reconnaissance finalement de la multiplicité des talents qui après d'ailleurs s'incarne dans des différentiels par exemple de salaire qui sont moindres. On peut travailler en industrie et puis avoir toute une carrière importante. Et puis surtout en Allemagne, on a beaucoup de formations continues. C'est-à-dire que finalement, si la première étape de la formation initiale, si les premiers choix de formation initiale ont au moins progressé, eh ben on peut rejouer durant toute sa vie d'adulte, avoir un retour vers leur formation. Donc en France, c'est très particulier parce qu'il y a des enjeux sont tellement importants autour de ces choix qui sont faits en plus dans des périodes qui peuvent être difficiles, psychologiquement instables, etc., que on comprend bien que dès lors qu'il y a des projets qui sont mal expliqués, dont on voit mal la transparence, on a vu l'année dernière l'ensemble des problèmes avec Parcoursup, ça crée immédiatement une très forte irritation et une très forte sensibilité. Voilà, parce que l'orientation est un sujet très particulier.
On va revenir à Parcoursup, évidemment. Vous parlez de cette période cruciale, l'adolescence, mais ce que j'ai retenu, c'est que 50% des élèves pensent ne pas être bien accompagnés. Et ça ne date pas de la réforme du lycée ni de Parcoursup. C'est déjà le cas avant. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sylvie Amici, vous qui êtes, dont c'est le travail d'accompagner les élèves. Ce travail existe depuis longtemps et il reste mal compris ou insuffisant. Quel est le problème ?
Alors c'est un travail, c'est un travail partenarial. Il faut savoir, Madame Mons évoquait la question de l'orientation en disant elle est complexe. Je pense qu'il faut pas ignorer aussi qu'elle est politique. C'est-à-dire que si on se projette un peu dans l'histoire des dispositifs et des réformes, à la fois des services, des dispositifs, des procédures, etc., comment dire ça ? Il y a une instabilité et beaucoup de réformes finalement. C'est-à-dire que récemment j'ai retravaillé là-dessus, puis je pense que vous avez dû le voir, Madame Mons. C'est pratiquement tous les 3-4 ans qu'il y a eu des réformes. C'est-à-dire avec des réformes qui faisaient que des choses qui fonctionnaient d'un seul coup été supprimée par un gouvernement. Parce que voilà, c'est quand je dis politique, c'est bien un gouvernement, un ministère qui dit, par exemple, à un moment, il existait ce qu'on appelle les découvertes professionnelles, où il y avait vraiment un travail de fond culturel qui accompagnait les élèves, mais qui, c'est vrai, qui ne touchait pas beaucoup d'élèves, qui aurait demandé à être multiplié. Changement de gouvernement, le dispositif est supprimé. Un nouveau gouvernement arrive et dit moins de redoublement, dernier vœu aux familles. C'est-à-dire que des réformes, il y en a eu plein. Et là, moi, ce que j'interroge, pour le coup, c'est vraiment l'aspect politique du manque de continuité, de stabilité. On en parlait avec le représentant de l'SGL. C'est effectivement même des noms de diplômes qui changent, alors que quelque part, on va vers des débouchés qui sont équivalents, des choses comme ça. Je souhaitais interroger ça. Je pense que je m'éloigne de votre question,
non,
mais ça m'inspire ça.
De savoir que le paysage est complexe, changeant, et qu'on ne peut pas capitaliser, si je vous suis
voilà.
sur un savoir, c'est déjà compliqué pour les professionnels et pour voilà. les enseignants, ils le disent, d'accompagner ah oui. les élèves dans ces choix d'orientation. Maintenant, on peut avoir deux professeurs principaux, c'est dire si la tâche est lourde. Il y a tout de même un autre sujet qui me semble tout à fait crucial, c'est ce phénomène de biais social dans les choix et de biais genré. Est-ce que l'orientation, ce n'est pas une étrange et grande histoire d'autocensure ?
Alors oui, et d'autant plus ce qui est complexe quand les acteurs qui interviennent ne se rendent pas compte eux-mêmes de leur représentation, qui ne se rendent pas compte et qui ont l'impression que ce qu'ils peuvent faire pour accompagner les jeunes, et c'est souvent le cas de professionnels quand ils ne sont pas formés, je pense que pour la majorité de mes collègues, nous sommes plutôt sensibilisés et faisons attention à ça, c'est justement de fonctionner avec des stéréotypes qui, sous le couvert de vouloir le bien des élèves, que ça fonctionne bien, vont discriminer. Votre question, je pense tout de suite à un exemple. Hein. Je suis aussi formatrice. Des collègues m'interpellent parce que parfois ils sont en difficulté dans des établissements. Ce que l'on remarque le plus souvent, c'est que par exemple, pour ma profession, souvent les établissements qui ont les politiques les plus inégalitaires sont les établissements qui, quelque part, n'ont pas de considération pour ce que l'on peut apporter comme autre regard, comme autre façon d'accompagner les parcours scolaires des jeunes. Et très récemment, une collègue qui était sur un collège dont les élèves dépendent d'un secteur où le lycée pratique plutôt une politique très sélective, ça donnait que du coup les établissements du collège anticipaient sur cette sélection et étaient très...
plus prudent dans leur proposition.
Alors on peut dire prudent, mais on peut dire aussi certaines formes de sanctions. Et quand on prenait, quand je prenais la question des statistiques, parce que les statistiques elles nous servent aussi à objectiver ces phénomènes, comme par hasard, qui ne passait pas de manière égale à ce qui se passe dans d'autres secteurs ou par rapport à la population de référence, c'était les jeunes hommes de catégories sociales les moins favorisées. C'est-à-dire que on parle des filles qui subissent des discriminations, mais il faut savoir qu'au niveau du collège, les garçons subissent aussi une discrimination au niveau de leur orientation. Mais ce sont souvent des impensés.
Donc ça peut changer, c'est ce que je retiens aussi, suivant la politique oui. des établissements et des actions plus ou moins volontaristes. Mais cette injustice, est-ce que c'est un sentiment, Nathan Le Potier, que partage avec vous des lycéens, ce sentiment d'injustice devant l'orientation ?
Sur la question de l'injustice, on peut prendre des éléments factuels. Hein, sur la question de la carte scolaire, quand à la fin du collège, il y a un lycée qui nous est attribué, et quand on voit que les lycéennes et lycéens des classes les plus favorisées choisissent de fait les lycées avec les meilleures options. Moi, je peux prendre l'exemple de mon lycée. Hein. Par exemple, moi, dans mon lycée, il y a portugais qui est disponible, il y a suédois, etc. Donc forcément, ça invite les lycéennes et les lycéens qui sont des classes les plus populaires à choisir ce lycée. Parce qu'en fait, avec le jeu des options, on peut détourner la carte scolaire. Et c'est ça qui crée justement davantage d'inégalités au lycée. Jean-Michel Blanquer prenait l'exemple de l'école de la confiance. Moi, je pense que c'est plutôt l'école de la méfiance, parce que par exemple, sur la question de la carte scolaire, il y a ça aussi, et sur la question de Parcoursup, on peut faire le lien aussi avec tout ça, c'est quand il y a des lycéennes et des lycéens qui sont de Paris, et qui ont plus de chances d'être pris dans les facs parisiennes, comparé à des lycéennes et des lycéens de banlieue, et ça aussi c'est de la méfiance, et ça aussi ça peut que accentuer les inégalités.
Ça, c'est ce qui s'est passé avec Parcoursup. C'était la première année de Parcoursup. Ça devrait changer un petit peu cette année. Je ne sais pas dans quel sens, mais Parcoursup va évoluer. Alexandre Séguenot, quel sentiment partage avec vous les lycéens, même question, hein, sur ce qui pourrait être perçu comme juste, injuste, possible, impossible. Est-ce que il y a un sentiment de défiance, pour reprendre le mot de Nathan Le Potier, vis-à-vis de l'éducation nationale?
Mais il y a au niveau de l'orientation, il y a un gros sentiment d'injustice, parce que suivant d'où on vient en France, comme a pu le dire Nathan Le Potier, que ceux qui vont venir de banlieues parisiennes ne pourront pas accéder aux facs parisiennes, ceux qui vont venir de province vont avoir beaucoup moins de chances d'atterrir dans des facs, suivant aussi notre niveau social. On va pas les personnes qui vont être les plus pauvres ne pourront pas accéder à des facs, les personnes les plus riches auront un accès direct. C'est des choses qui créent des inégalités au niveau des lycéens.
Mais on vous en parle? Est-ce que les lycéens le disent comme ça? C'est ça le sens de ma question.
Bah, en fait, si aussi on peut reprendre un exemple factuel, comme ça, ça permettra d'illustrer un petit peu ce que je dis, sur la question du bac 2021. On prend, il y a une augmentation du nombre de spécialités qui passe de 3 avec le bac ES, S et L à 9 avec les différents jeux d'options possibles. Et en fait, comme couplé à la réforme sur Parcoursup et à la loi orientation des réussites des étudiants, en fait, en fonction de la spécialité qu'on aura choisie, eh ben, en fait, on ne correspondra plus aux attendus locaux des établissements qui seront choisis par les lycéennes et lycéens. Donc ça, en fait, on ajoute de la sélection à la sélection. Et c'est ça qui, justement, agrandira le sentiment et l'effet d'inégalité dans les lycées et dans les universités. Et en fait, avec ça, avec c'est la question de dire, bah, on va choisir notre spécialité à la fin de la seconde, en fait, c'est juste pour dire, on va orienter les lycéennes et lycéens à la fin de la seconde.
À moi, tout ça m'apparaît extrêmement technique. C'est comme ça dans tous les pays, Nathalie Mons.
Oui, c'est toujours des univers extrêmement compliqués, hein, l'orientation. Hein. Mais je rejoins vraiment les points de vue sur l'instabilité politique, d'abord. Hein. Madame a raison, c'est vraiment des politiques de stop and go. Et cette instabilité politique, ces changements, hein, dans les critères d'orientation, dans les filières, etc. Ça joue, alors évidemment, sur les professionnels, mais ça joue aussi, hein, et Nathan vient bien de le montrer, ça joue aussi directement pour les élèves et les familles. C'est-à-dire que vous rentrez dans des cycles d'enseignement, vous devez faire des choix, alors que vous ne savez pas encore, finalement, au bout du compte, sur quels critères vous allez être choisi au final, par exemple si vous êtes au lycée, sur quels critères vous serez choisi au final quand vous rentrerez dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, cette instabilité et ce changement des règles du jeu, très souvent au milieu du parcours de l'élève, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable, qu'on ne retrouve pas là pour le coup à l'étranger. Pourquoi ? Parce que à l'étranger, on a quand même, depuis une quinzaine et une vingtaine d'années, pris conscience qu'il fallait développer des politiques d'orientation, hein, d'éducation à l'orientation. Des politiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a vraiment des visions politiques qui ont été construites autour de ce qu'on peut attendre de l'orientation. Et notamment, et vous avez raison de le souligner, hein, sur les inégalités sociales à l'école, on a dans des pays aussi divers que l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, la Finlande, le Japon, des grands programmes, hein, de lutte contre les stéréotypes sociaux, notamment des jeunes, par exemple, dans les enfants dont les parents ne sont pas allés à l'université. Hein. On accompagne comme ça, à partir du primaire, hein, dans des programmes qui visent finalement à élever les ambitions des jeunes, à leur dire « mais oui, tes parents sont peut-être pas allés à l'université, mais regarde ce qu'on y fait, rencontre des universitaires, fais des expériences avec des scientifiques, voilà comment ça peut se développer vraiment, des TP, etc. » On donne envie en fait, hein, aux jeunes et aux parents, parce que les parents sont aussi, hein, dans les programmes, même dès le primaire, on donne envie d'aller finalement plus loin. Et on voit bien que des programmes comme ça peuvent lever et peuvent donner des nouvelles ambitions aux jeunes. Et au final, ça se traduit évidemment, hein, par des inégalités, hein, sociales d'accès à l'enseignement supérieur qui sont beaucoup plus faibles qu'en France. En France, très souvent, on attend en fait les dernières années du lycée, ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Tant mieux, il faut qu'elles se développent, il faut que ça reste, hein. Donc c'est des systèmes qui en terminale vise à aider le plus souvent scolairement les élèves à passer des concours difficiles, atteindre des bons résultats pour pouvoir être après choisi dans la classe supérieure. Mais très souvent, ça ne suffit pas parce que c'est trop tard.
Trop tard pour être décisif. Alors je retiens qu'on peut parler d'orientation très tôt dans la scolarité.
On parle d'orientation dans le sens de élever les ambitions, dépasser les stéréotypes, hein. pas dans le sens français de faire des choix de métier.
Vous avez sûrement raison de le préciser, Nathalie Mons, parce que c'est vrai que le sens du mot orientation, il est très lourd en France. Être orienté, ça peut vouloir dire tout simplement ne pas continuer, par exemple, dans la voie générale. Ça, c'est la manière dont on en parle, hélas, souvent dans les conversations communes. Je voudrais m'arrêter sur Parcoursup, donc cette grande réforme admission post-bac, donc là, vous manifestez contre Parcoursup, hein, Nathan Le Potier et Alexandre Seguenot. Mais l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de lycéens dans ces manifestations. Sylvie Amici, je me tourne vers vous. Comment vous interprétez finalement cette présence très ténue l'année dernière? Et encore, hein, c'est pas trop majoritaire. On cherche d'abord à s'adapter quand même du côté des familles et des élèves.
Alors l'année dernière, il y a eu une grande promesse. Et surtout une grande promesse accompagnée de communication, mais communication au sens presque commercial, je dirais. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu un grand battage de fait sur le fait que APB était injuste, que le tirage au sort c'était vraiment pas bien, etc.
Ce qu'on peut considérer comme vrai.
Sauf que APB, le critère tirage au sort avait toujours existé. Pourquoi est-ce que il n'y avait pas eu ce problème avant? C'est parce qu'en fait, on oublie, on n'en a pas parlé depuis le début, de la question de la démographie. C'est-à-dire que le critère tirage au sort a toujours existé dans APB, sauf qu'il n'avait jamais été appliqué, parce que la démographie mettait en face des demandes des places.
Et là, nous avons affaire à la plus grande génération. Non. On a une très grande génération de lycéens. Oui. Il y a beaucoup de lycéens en France. Il y en a
beaucoup de lycéens.
De plus en plus d'étudiants.
Et je souhaiterais à rajouter qu'en plus, là ça redescend un petit peu, mais ça va remonter et il y a un prochain pic en 2010. Par rapport, oui,
en 2000...
des bébés 2010.
Oui.
Là c'était les bébés 2000 et il y aura un deuxième pic en 2010 qui est supérieur à ce pic-là. Et j'ai l'impression que tout le monde fait comme si non. Donc je vous le dis, si vous voulez, j'ai les chiffres, je peux vous les amener, je peux vous les donner. Il y a ce pic de bébés de 2010.
Je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur les a aussi. Alors Nathalie Mons, ce qu'on lit dans cette étude, cette conférence de consensus, c'est que c'est toute une vision de l'orientation, et ça c'est intéressant d'en parler, qui est très différente en France, si on se compare à d'autres pays. C'est qu'en France, on s'oriente en regardant les résultats scolaires, et les possibilités auxquelles on pourrait avoir accès en fonction de ces résultats. Finalement, on pose peu la question du désir de l'élève, ses aspirations, moins qu'ailleurs, je l'ai appris en vous lisant, c'est bien développé dans cette étude, et qu'on n'oriente pas d'une manière positive.
C'est-à-dire qu'en France, on reste très attaché à une vision assez finalement rudimentaire de la méritocratie. C'est la méritocratie par les notes. On a quand même tout un ensemble de pays qui tiennent davantage compte des appétences et des motivations. Je pense par exemple à des pays comme l'Angleterre ou le Danemark où finalement on va demander à l'élève de motiver son choix et on va en prendre au moins une partie. Même s'ils n'ont pas les bonnes notes parce qu'ils sont très motivés et puis ils peuvent faire la démonstration que c'est finalement quelque chose vers lequel ils tendaient déjà depuis un moment. Ils ont déjà mené d'autres activités. Bref, il y a une démonstration personnelle aussi d'engagement. On voit par exemple qu'au Danemark, il y a des quotas qui sont réservés en fait aux jeunes. Bon, qui décrochent un peu au niveau des notes, mais qui peuvent faire preuve d'une certaine motivation. Et lorsqu'on regarde finalement 3-4 ans après, ces jeunes très motivés, ils ont au moins les mêmes résultats, sinon meilleurs, que des jeunes qui avaient des notes supérieures. On voit aussi en Allemagne, qui est pourtant le grand pays de la sélection, où c'est une entrée très difficile dans l'enseignement supérieur avec la fameuse Abitur, qui est l'équivalent du baccalauréat. Donc on sélectionne beaucoup là pour le coup sur les notes. Mais par exemple, hein, dans les études de médecine, là aussi, il y a une série de places qui sont réservées à des élèves qui peuvent faire la démonstration d'une vocation. Hein, ça, c'est très allemand, hein, c'est-à-dire la vocation pour un métier. Et finalement, s'ils acceptent, hein, d'attendre un certain moment, de développer certaines activités qui touchent, hein, à l'univers médical, eh ben, on peut leur donner aussi leur chance, même si au départ, ils n'avaient pas exactement les notes qui permettent de rentrer. Donc, il y a quand même beaucoup de pays qui se méfient d'une méritocratie qui serait seulement pensée à travers les notes. En Angleterre, on a aussi ce qu'on appelle l'Open University, qui permet à des jeunes qui là, n'ont même pas l'équivalent du bac, de rentrer et de faire des études à distance. Il y a quand même quasiment 10% des jeunes anglais comme ça qui poursuivent dans l'enseignement supérieur. Donc, on est quand même très à distance ailleurs, on se méfie de la méritocratie, en ce sens on se dit mais c'est difficile de juger un jeune à 18 ans juste sur des notes, quoi. Et donc on a plein de façons comme ça de lever cette tension entre le goût des jeunes et puis les notes à l'étranger. Et chez nous on ne fait peut-être pas assez attention, je pense, à vraiment à l'engagement, à l'attention, au désir personnel.
Il y a tout un aspect, se connaître soi-même, connais-toi toi-même, ça c'est ce qu'on doit aussi étudier en philosophie à travers les textes. Nathan Le Potier, mais peut-être faut-il s'y intéresser avant. Est-ce que vous avez été incité dans votre parcours à vous intéresser à vos aspirations, à vos désirs?
Juste là où j'aimerais revenir sur la question de l'orientation, en fait, pour moi, je ne suis pas d'accord avec la rhétorique qui consiste à faire croire que l'orientation, c'est une question d'envie. Hein. Comme vous avez pu le dire, on peut bien dire aux États-Unis, ah oui, regardez, c'est bien d'aller à l'université, c'est bien. Mais en fait, au final, quand on va à la fac, aux États-Unis, on est obligé de payer 40 000 euros l'année. Donc en fait, là aussi, c'est une question, c'est une question de sélection, la sélection par l'argent. Sur la question, par exemple, de l'Angleterre, hein, on peut reprendre l'Angleterre. Là-bas, ils ont le lycée modulaire, donc on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est un peu ce qu'est en train de faire Jean-Michel Blanquer à l'heure actuelle, c'est augmenter le nombre de spécialités pour que les spécialités soient soient différentes par chaque lycée, pour qu'on crée des bacs qui soient locaux, et donc après que les lycéennes et les lycéens aient pas les mêmes compétences dans les différentes universités en Grande-Bretagne, ce contre quoi
mais
nous on se bat.
Je reviens à ma question, et pas forcément pour vous personnellement, mais ça peut aussi inciter les élèves à s'interroger sur leurs aspirations, parce qu'effectivement, quand on arrive et qu'on passe son bac, alors on n'est pas tous obligés d'avoir une vocation, mais il faut bien s'interroger sur ce qu'on a envie d'étudier, et puis peut-être ce qu'on a envie de faire comme métier. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être une question qui se pose peut-être de manière plus précoce et aussi en fonction de ses envies et non pas de ses résultats scolaires pour reprendre les points de cette étude.
Mais moi je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que les élèves plutôt puissent savoir où est-ce qu'ils vont, mais encore faudrait-il qu'on donne les moyens nécessaires pour cette mise en application. Si à l'heure actuelle on peut prendre l'exemple des PsyEN, on peut prendre l'exemple aussi de la suppression du nombre d'enseignants, s'il n'y a pas les ressources humaines derrière pour guider, pour aider les lycéennes et lycéens, les collégiens et les écoliers et les écolières pour justement choisir son orientation, en tout cas commencer à y réfléchir et qu'on soit pas à la fin de la terminale en disant ah bah qu'est-ce que je vais faire, et ben en fait il faut mettre les moyens derrière. Donc bien évidemment qu'on peut pas être contre le fait qu'on réfléchisse avant, mais il faut mettre les moyens derrière, et c'est ça de toute façon qui sera la pierre angulaire du fait d'avoir envie d'aller à l'université, ou que ce soit l'université ou autre chose, hein. Il n'y a pas que les universités, il y a aussi les prépas, il y a aussi les BTS, etc. Donc c'est à partir du moment où il y a aussi le lycéen ou la lycéenne qui a envie de faire quelque chose, il y a un taux d'échec qui sera bien évidemment plus réduit. Mais il y a aussi tous les facteurs aux alentours sur la question monétaire, où bah, on peut ne pas aller à l'université parce que c'est trop loin, parce que c'est à Paris, parce que c'est etc. Il y a vraiment beaucoup d'autres facteurs pour qu'on réduise juste la question à la question de l'envie.
On entend bien aussi le syndicaliste, et nous avons un autre syndicaliste, Alexandre Séguenot. Donc même question, votre sentiment personnel si vous voulez, et puis syndical, sur la manière dont on pourrait penser l'orientation comme quelque chose de plus choisi et de moins subi.
Je pense qu'on devrait arrêter de regarder le niveau des élèves par les notes, bien comme le font les autres pays, tenter sur l'envie et les compétences, beaucoup plus. Parce que regarder seulement les notes, les choses comme ça, c'est vraiment quelque chose de sectaire. Un élève qui va être, quelqu'un qui va suivre son baccalauréat, qui va pas forcément avoir des notes sublime, être dans les meilleurs, c'est peut-être celui qui sera le meilleur ensuite dans un travail, comparé à quelqu'un qui aura Je ne sais pas si je suis claire dans.
J'entends que c'est la force de la motivation.
La motivation,
qui peut
voilà.
Changer les résultats.
Regarder beaucoup plus la motivation.
Si je peux me permettre de rappeler ce que vient de dire
Sylvie Amici.
Voilà, c'est sous le regard de Madame Mons qui du coup vient de faire une étude. Je ne pense pas qu'il existe une seule recherche qui dise que ce sont les meilleurs élèves qui avaient les meilleures notes qui, parce qu'ils ont été sélectionnés, vont le mieux réussir et vont être les meilleurs professionnels. Elle n'existe pas, cette étude-là. Alors que c'est ça qui est reproduit. Voilà.
Pourtant, ce sont bien les meilleurs élèves qui ont les meilleures notes, qui se retrouvent dans les élites politiques. On peut parler...
Est-ce que c'est si sûr?
On a un certain nombre d'énarques qui ont gouverné la France, et c'est absolument pas pour dire du mal de l'ENA, c'est pour dire que cette sélection scolaire, évidemment, elle fonctionne d'une certaine manière extrêmement bien en France, puisqu'on retrouve les grandes écoles au poste clé.
Est-ce que ça nous donne les meilleurs hommes politiques dont on aurait besoin?
Ça, c'est une grande question.
C'est de ça
question.
Que je parle.
C'est une grande question.
De la même manière, certaines sélections sont faites en ce moment. Bon, il y avait médecine, il y a la psycho. Est-ce que c'est en sélectionnant les étudiants de psychologie sur leurs notes en tant que lycéens que l'on est sûr que l'on formera les meilleurs étudiants de psychologie et qu'on aura les meilleurs praticiens au sortir de ces études? Je pense que c'est la question que vous posez.
Mais voilà. Au-delà de ça aussi, si je peux me permettre une petite précision, au-delà du fait que la classe politique soit squattée par l'ENA, c'est aussi sur la question du fait que c'est toujours les mêmes personnes qui accèdent aux mêmes écoles. Et ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi toujours les mêmes accèdent à toujours aux mêmes écoles? On peut prendre l'exemple de l'ENA, de HEC, de Sciences Po, etc.
Malgré des politiques d'ouverture sociale,
Nathan
Le Potier. Et ça, c'est attesté par des recherches qui sont même faites au sein de ces écoles. Je pense à Sciences Po, par exemple. C'est comment interpréter cette difficulté? Mais c'est pareil, c'est une question d'orientation, à varier les profils. Déjà, des élèves et des étudiants qui rentrent dans les écoles les plus sélectives. Et en même temps, je ne sais pas si je peux vous emmener jusque-là, Nathalie Mons, mais dans la manière dont les gens se retrouvent professionnellement à tel ou tel poste.
C'est-à-dire que on a un enchaînement. En 2015, on produisait un rapport sur les inégalités sociales à l'école et les inégalités d'orientation. On voit bien que ça commence par des inégalités finalement territoriales de ressources. On a pu le montrer dans un autre rapport où on a finalement plusieurs écoles selon les territoires où elles sont implantées déjà. Donc il y a des inégalités de traitement, notamment dans les ressources humaines. Des enseignants plus aguerris sur certains territoires, par exemple.
Et moins aguerris.
Pour
lever un peu la petite
imprécision. Moins expérimentés dans d'autres.
Lesquels?
Dans les territoires les plus paupérisés. Donc tout ça, évidemment, se transforme en inégalité de résultats scolaires qui vont venir percuter, mais elles sont très souvent invisibles, ces inégalités d'orientation. Les inégalités d'orientation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à notre donnée, à notre équivalente, selon les catégories socio-professionnelles des parents des élèves, il va y avoir des orientations différentes. C'est-à-dire qu'à notre équivalente, un enfant, un jeune qui est issu d'un milieu défavorisé va être plus orienté vers l'enseignement professionnel. Et on retrouve ça, nous, dans les derniers chiffres sur l'orientation. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on regarde sur l'absence de choix, les jeunes qui nous disent « j'ai pas eu de choix ». On a seulement 10% des enfants qui sont de milieu cadre. 10% contre 20% des enfants qui sont issus de milieu ouvrier. Donc, en fait, c'est une longue chaîne. C'est une longue chaîne qui arrive à ces inégalités. Par contre, sur les critères qui sont mis en avant par les jeunes pour choisir leur formation, là, je dirais qu'on peut être quand même optimiste. C'est-à-dire que moi, vraiment, c'est un résultat qui m'a étonnée dans l'étude qu'on vient de réaliser. Finalement, quels que soient les milieux sociaux, quel que soit le genre, fille, garçon, quel que soit le cursus enseignement professionnel ou lycée général, le premier critère que mettent les jeunes en amont, vraiment en premier, comme critère de choix de leur formation, c'est leur goût, leur appétence personnelle. Ensuite, les disciplines. Et ensuite viennent d'autres critères qui ont été cités, par exemple la proximité géographique, la rémunération du métier, etc. Mais ce qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes partent d'eux. Alors, ils partent d'eux peut-être parce que l'insertion après est tellement compliquée
dans le monde du travail, que autant de partir finalement et faire le choix d'un métier que l'on aime le plus possible. Alors après, c'est vrai que lorsqu'on regarde sur les enfants d'ouvriers, bah, les critères du type proximité géographique arrivent en avant. Sur la dimension économique qui était citée par Nathan, évidemment, c'est une dimension qui est très importante, puisque je vous l'ai dit dès le début, oui. Il y a quand même un tiers des jeunes qui renoncent pour des raisons économiques. Donc là, il faut quand même qu'on réfléchisse, parce qu'en France, on se dit, mais les études sont quasiment gratuites à l'université. Or, c'est le premier critère qui arrive. Donc il y a une vraie.
Je suis d'accord avec vous sur la question des études gratuites à l'université. Non, mais justement, il y a vraie... des études qui ont été faites sur la question aussi de. Il y a 300 euros par mois et là le gouvernement va les augmenter pour les étudiants étrangers. Et il y a tous les coûts cachés aussi autour de l'université.
Voilà. 300 euros par pas par mois.
Par an.
Mais après le logement. Exactement. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir dans notre pays. Quand on voit ce chiffre, un tiers qui renonce pour des raisons économiques, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que coûtent les études. C'est-à-dire, évidemment, les déplacements, des logements quand c'est pas dans la ville, et puis ce que les économistes appellent le coût d'opportunité, c'est-à-dire que quand on fait des études, on ne travaille pas, et dans certains milieux, c'est intégré comme un coût. Voilà. Donc il y a bien quand même une dimension économique aussi.
Dimension économique qu'on a vu également monter avec la pauvreté des étudiants. Là, c'est un vrai sujet, puisque les étudiants, aujourd'hui, ont des problèmes pour se loger, ont parfois des problèmes pour se nourrir. Et ça, c'est tout à fait renseigné par d'autres études. Mais alors, si on parle de coûts, et c'est tout à fait étonnant, mais c'est un grand changement dans le paysage de l'orientation. Aujourd'hui, l'orientation, le conseil en orientation, ça devient un marché privé. Et ça devient un marché privé où parfois on paye pour du conseil. Alors ça s'appelle plus des conseillers en orientation, ça s'appelle des coachs, parce qu'on est dans un paysage un peu différent. Sylvie Amici, quel est votre regard sur ce conseil privé et parfois très cher hein, pour les familles qui sont prêtes à y mettre le prix?
Alors le conseil privé a toujours existé.
Mais il est en nette augmentation.
Mais il en est en augmentation et on peut se demander quel signe a envoyé ce gouvernement pour qu'à ce point-là, autant de cabinets, autant de professionnels, souvent issus des écoles de commerce, il faut bien le dire, on retrouve rarement des gens issus des écoles d'ingénieurs ou d'autres filières. C'est juste un constat, hein, c'est juste une corrélation, je dis pas qu'il y a une causalité. On peut s'interroger. Là, les chefs d'établissement, en ce moment, reçoivent plein d'offres. Il faut savoir que parmi ces gens-là, là, dernièrement, je voyais des gens qui s'intitulent les coachs, conseillers d'orientation. Effectivement, leur parcours, ça avait été d'être DRH dans une boîte de fabrication de papier, et l'autre, il coordonnait la mise en œuvre de la fabrication, etc. C'est-à-dire qu'on trouve des gens qui n'ont aucune qualification, qui ne connaissent pas les adolescents, qui connaissent peut-être leur milieu professionnel.
Le monde professionnel, ça peut être intéressant.
Leur milieu professionnel. C'est-à-dire que connaître un milieu professionnel n'amène pas à connaître tout son milieu professionnel. Si vous prenez on va prendre un pilote d'avion, est-ce qu'il connaît vraiment tous les métiers qui se font autour de l'aéroport et en lien avec l'aéroport? On peut le faire intervenir, il peut en parler. Bon, ça c'est les boîtes de coaching. Alors, et tout un tas d'associations. Je voudrais vous donner un exemple. Puisqu'on parlait de confiance, il y a des plateformes qui se sont créées, donc certaines qui sont labellisées par le ministère, qui du coup mettent en relation avec des jeunes, des étudiants qui ont déjà un parcours, qui proposent aussi des questionnaires. Je vous lis texto ce qui est écrit sur la présentation de leur site par rapport à ce questionnaire. Donc, leur questionnaire, il est basé sur un algorithme qui examine la cohérence des réponses avec les statistiques nationales sur le profil et le niveau scolaire des étudiants de chaque filière, les chances d'être pris, et il prend en compte le lycée d'origine. Donc, cette plateforme-là, elle a été labellisée par le ministère. Mais vous voyez que par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est des gens qui vont intervenir dans les établissements. Et là, c'est même pas une boîte privée de coaching, c'est une association labellisée par le ministère. Et pourtant, c'est ça le projet. Alors, que des étudiants viennent parler de leur parcours, c'est intéressant. Mais qu'elles proposent des tests, des choses comme ça, qui affichent en plus, c'est pas masqué, hein, qu'il y a la prise en compte du lycée d'origine. Qu'est-ce que ça va donner? On peut s'interroger. Et de la même manière, faire intervenir des intervenants extérieurs. Il y a eu dans les années 2010, avec le fonds expérimentation jeunesse, pas mal d'expérimentations sur l'orientation. Et il y a eu un bilan fait en 2012. Et le constat qui était fait, alors c'est un petit chapitre qui n'est pas dans la conclusion, mais qui est dans l'introduction de cette étude, et qui montre que en fait la plupart de ces accompagnements en mettant en contact des gens, avec des élèves, avec des professionnels ou des étudiants, vont abaisser le niveau d'aspiration, vont faire que les jeunes vont rationaliser et que du coup ça n'agit pas sur le fait qu'ils améliorent leurs résultats, ils vont simplement faire des choix qui sont quelque part un peu plus rationnels, un peu plus conformes à ce qu'on leur laisse aspirer.
Ça, c'est quand même une critique qui était portée sur votre profession, les conseillers d'orientation.
Oui.
C'était une profession, et enfin, moi je le vois hein, aussi dans la parole d'élèves ou de jeunes adultes, le conseiller d'orientation, c'est pas une figure, on continue à l'appeler un peu comme ça, très aimée hein, dans l'éducation nationale.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, des enquêtes ont été faites. Quand vous enquêtez auprès des jeunes et des familles sur le conseiller d'orientation qu'ils ont rencontré dans l'établissement scolaire, souvent, c'est pas positif. Quand vous enquêtez sur le conseiller d'orientation psychologue ou maintenant psychologue de l'éducation nationale qu'ils ont rencontré en CIO, en centre d'information et d'orientation, c'est positif. Là, on a fait une enquête récemment avec plus de 3000 réponses. On est à des taux de 80-90% de satisfaction, voire à dépasser mes attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans l'image que les gens ils ont. Parce que nous sommes les mêmes professionnels. Nous sommes les mêmes. Sauf que c'est vrai que le cadre, ou la façon dont l'élève nous a été adressé, qui a dit à l'élève qu'il fallait voir le conseiller d'orientation? Et souvent, ça va être avec... c'est là où on va revenir sur les équipes avec lesquelles on travaille bien, c'est-à-dire qu'ils nous voient comme des personnels ressources qui vont aider le jeune à imaginer un avenir, à se positionner, mais aussi à se remotiver sur l'immédiat et pas forcément à abandonner ce qu'il veut. Là, ça fonctionne. Quand on travaille dans des équipes qui pensent conseiller d'orientation, réorientation ou autre orientation, c'est là que ça se passe mal et que, quelque part, on endosse cette responsabilité, mais pas plus, pas moins que la vraie orientation, il faut se souvenir que l'affectation, ce sont les enseignants et les chefs d'établissement qui la signent et qui la font avec les familles.
Mais vous rappelez par là que l'orientation, par exemple, en filière professionnelle, peut être vécue de manière tout à fait douloureuse. Je vois les syndicalistes qui confirment cette impression. Hein. D'ailleurs, c'est tout à fait aussi documenté par des études. Nathalie Mons, un mot sur le CNESCO, parce que on a parlé de la loi hein, sur l'école de la confiance. Cette loi modifie un petit peu... le statut du CNESCO. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous continuez à exister, mais sans financement réel. Que s'est-il passé? Qu'en est-il de ce conseil? Que va-t-il devenir?
Alors, la loi de l'école de la confiance, là, qui sera votée donc tout début 2019, donc très rapidement, supprime le CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui est un organisme hein, qui a une méthode très particulière, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, tout ce qui est produit avec des chercheurs hein, de toutes les disciplines, et les préconisations sont produites avec des acteurs de terrain, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment une dimension participative. Hein. On produit avec des élèves, avec des parents d'élèves, avec des enseignants, etc. Il est prévu donc que ce conseil soit remplacé par un nouveau conseil qui sera davantage orienté hein, sur l'évaluation des établissements. Je crois qu'il est très important, donc on voit bien que ce nouveau conseil hein, ne remplace pas évidemment l'évaluation indépendante hein, des réformes scolaires, et d'autant plus qu'il y a de nombreuses réformes hein, qui arrivent. Il me semble donc important évidemment que le ministère puisse poursuivre ce conseil national d'évaluation du système scolaire. On voit bien que c'est l'efficacité des réformes. Hein. On a beaucoup de réformes qui sont en place. Il faut pouvoir finalement dire si elles fonctionnent ou pas, de façon à ne pas les continuer si elles ne fonctionnent pas. Et puis, il y a une dimension démocratique, c'est-à-dire que le citoyen a besoin d'avoir les résultats réels hein, des réformes scolaires. Et il faut habituer le politique à rendre compte.
Mais ça peut faire grincer des dents. Ça avait été le cas avec la ministre précédente. Hein. Il y avait une étude sur l'éducation prioritaire qui avait été reçue de manière, on peut dire, compliquée. Donc, consulter, on va terminer sur cette idée. C'est important pour vous, Nathan Le Potier, évidemment, j'imagine. Comment vous pourriez être davantage entendu en tant que syndicaliste lycéen?
Alors, nous, ce qu'on veut pas, c'est être consulté. Nous, ce qu'on veut, c'est être concerté. Et la sémantique est importante, c'est-à-dire que nous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on nous dit « on va vous consulter, cher élève, oui, on va vous écouter, on va reprendre vos revendications ». Ça fait 20, 30 ans maintenant qu'on s'est fait un petit peu berner et que maintenant, il est temps que les organisations lycéennes demandent des vraies concertations. Donc, visiblement, le ministère de l'Éducation et le Premier ministre semble-t-il entendu ça. Maintenant, nous, ce qu'on attend, c'est des actes. Quand on est convié au ministère de l'Éducation ou dans les différents ministères, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous écoute. Pas qu'on nous écoute juste pour dire, bah voilà, on a écouté les élèves, mais vraiment qu'on ait des échanges et des dialogues de fond qui sont pas possibles dans d'autres conditions. Et qu'en fait, là, juste, on a juste l'impression d'être pris pour des imbéciles quand on nous dit, bah oui, on va vous lâcher ça, on va vous donner 50 millions, vous allez être content, hop, c'est parti. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un changement et des politiques éducatives qui soient d'ampleur. Parce qu'il est temps de faire changer ce système qui est au bord du craquage. Et sur la question de l'orientation, j'aimerais juste reprendre 30 secondes. Je pense que aussi, et c'est pour ça que les élèves en ont marre, c'est que en fait, quand par exemple sur Parcoursup l'année dernière, on devait payer plus d'une centaine d'euros pour avoir un CV pour qu'il y ait une conseillère d'orientation ou un conseiller d'orientation privé qui nous rédige le CV à plus de 100 euros, à plus de 100 euros pour juste le CV. Et ben en fait, on se pose aussi la question de à qui s'adresse ce genre de service et à qui ça profite encore une fois.
Parce qu'il fallait mettre un CV dans la candidature hein, pour les universités ou l'enseignement supérieur. Alexandre Segno, très très rapidement, est-ce que vous aussi vous avez l'impression d'être pris pour un imbécile, tout simplement?
Oui, nous on...
C'est clair.
oui, non. Et on aimerait pouvoir être plus écoutés quand on est reçu au ministère et des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on est juste consultés. Comme a dit Nathan Le Potier, on voudrait être concerté. C'est pour ça que nous, on demande que le Conseil supérieur de l'éducation, qui est jusque-là une partie consultative, que devienne un organisme qui soit votant, qui puisse vraiment décider des choses. Parce qu'on se demande l'utilité d'avoir un conseil à qui on propose les réformes, on propose des lois, on leur demande de voter, et à la fin, on leur dit d'accord, très bien, on a votre avis, on fera ce qu'on veut.
Parole de lycéen. Merci beaucoup à tous les quatre. Eh bien, le rapport du CNESCO dont nous avons parlé sera mis en ligne le 11 décembre et je crois bien que c'est mardi. On passe à la dernière rubrique de l'émission. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert. Comment créer sa place au sein d'une famille charismatique? La fuite à l'internat est-elle une chance ou une expiation? Retour sur des années de mélancolie et de rêverie, les jeunes années de Jane Birkin.
Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'idée que l'internat serait chouette. Sur quoi mes parents étaient très commodes et ils ont trouvé un, justement, sur l'île de Wight, où par ailleurs ils avaient un modeste petit cottage. Et nos vacances étaient entre l'île de Wight, dans leur petit cottage près de la mer, et aussi Nottingham, dans la vaste maison victorienne de ma grand-mère, que oui. Nous adorons.
Alors, c'est une plongée dans l'Angleterre des années 50 et des années 60, Jane Birkin, une période durant laquelle il est tout à fait normal d'envoyer des enfants de 8 ans ou 10 ans à l'internat, même s'ils n'en ont pas envie. Et vous-même, dans votre journal, vous parlez de, je vous cite, de la mélancolie de l'internat.
Je pense que c'était pas particulièrement rude. Mon frère était vraiment dans un internat à 6 ans, vraiment rude. Alors que nous, on était dans un internat assez classique, mais c'était que des filles, uniformes, que des filles, des règlements, des matrones qui étaient chefs de chaque petite maison où on s'habitait pour courir jusqu'à l'école majeure. Où avaient lieu toutes les études. Mais ça voulait dire que si vous ratez, si vous ne courez pas assez vite, si vous avez oublié quelque chose, vous collez un late mark, qui est un marque d'être en retard. Et après 3 ou 4, je ne m'en souviens pas, ça change en désobédience. Et après quelques désobédiences, Marc, par contre, vous êtes viré de l'école. Donc. Et puis le confinement de jeunes filles ensemble, ou jeunes garçons sans doute ensemble, enfin sans mélange du tout, ça fait des gangs de filles, si par faiblesse, vous voulez faire partir quelque part de ces gangs. Mon frère ne voulait pas, donc il a dit qu'on ne pouvait pas le taquiner parce que d'aucune manière, il voulait faire partir de le même club que eux. Donc, ils n'avaient aucune emprise sur lui parce qu'ils s'en foutaient pas mal. Alors que moi, j'avais envie d'avoir des copines, j'avais envie de faire partie de leur groupe. Et du coup, j'étais repoussée parce que corporellement, je n'étais pas standard. Je n'avais pas de sein. Rien n'avait développé. Alors du coup, les taquineries, surtout à cet âge-là, 12, 13, 14, c'est ce qu'il y a de pire parce que vous prenez ça au cœur parce qu'il n'y a pas vraiment des preuves que tout va bien. Donc toi, il sème le doute. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe pas? Et tout prend des proportions tellement énormes à l'internat. Mais il y a une complaisance aussi, parce que sur les pages où j'avais écrit, je garde quand même les marques des larmes. Donc, ça montre que d'avoir été triste et de se punir soi-même, de pas rigoler avec les autres, de se punir soi-même en restant dans des études pour les grandes filles alors que vous étiez une petite fille, c'était un choix que j'avais fait pour que me foute la paix, mais aussi peut-être pour souffrir.
Mais d'ailleurs, en lisant vos journaux intimes, Jane Birkin, on découvre à quel point vous vous êtes sentie, je reprends vos termes, très misérable, pas à la hauteur du tout. C'est-à-dire que vous vous sentiez moins désinvolte que votre frère Andrew, moins original que votre sœur Linda, mais surtout moins charismatique que vos parents, qui eux avaient déjà des parcours très très spectaculaires. Hein.
Ils étaient divins. Mon père était avec la résistance française. Il avait un patch sur un œil, il crachait du sang. Enfin, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de plus...
Romanesque. Hein.
Romanesque. Et ma mère, d'une beauté, mais sidérante. Elle entrait dans une salle et les gens arrêtaient de boire.
On comprend dans votre livre, Jane Birkin, à quel point... adolescente, vous étiez à la fois modeste et snob. Peut-être, en tout cas, rétive à toute forme de vulgarité. Je vous cite, à l'âge de 15 ans, vous écrivez « J'essaye tellement de ne pas lire des livres comme Peyton Place et pourtant, ils m'attirent. J'aimerais que non, parce que je me sens vulgaire, banale et horrible si c'est le cas. » Mais alors, quel était le modèle de lycéenne idéal, hein?
Oh, j'en sais rien. De Peyton Place, quand j'y pense, enfin, mon niveau de littérature était quand même extraordinairement bas parce que Peyton Place est vraiment très très facile, mais c'est un peu cucu, c'est un peu sexuel, enfin, c'est rien du tout. Et quelque part, je savais qu'il fallait pas ça. J'avais une sorte de morale qui savait que ça, c'était pas bien. Qu'on m'avait installé, en tout cas, dans la tête, surtout dans l'internat qui était église protestante de haut niveau. Ça veut dire chapelle le matin, chapelle le soir. C'était très laborieux.
Donc, il ne fallait pas faire vulgaire.
J'adorais ça. J'étais extraordinairement religieuse. Donc, je savais qu'il ne fallait pas faire ça et il y avait une grande tentation de faire ça. Donc, j'ai tombé sur l'homme idéal qui était Serge.
Hey! Oh, that's my song! That's my song, là! My body lies over the sea. My bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my bonnie to me. Bring back, oh, bring back my bonnie to me. Bring back, oh, bring back my bonnie to me. Oh, blowy winds over the ocean.
Dans la joie de cette très jolie chanson traditionnelle My Bonnie, chantée par Jane Birkin, qui vient de publier le premier volume de ses journaux intimes Monkey Diaries, et c'est chez Fayard. On se retrouve dimanche prochain sur France Culture, ou évidemment en podcast à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On remercie toute l'équipe Somanina qui a réalisé cette émission, Jean-Guilain Mège qui était à la prise de son, Avril Ventura qui collabore à la préparation de chaque numéro d'Être et Savoir, et Saïd Hamda, notre stagiaire. Bonne soirée à tous.